Vous êtes toujours avec nous sur Bac FM, la radio du PAF, 100% pop rock et métal. On est en début d'après-midi et comme chaque jour dans CDLP, c'est dans les parages, vous le savez, on reçoit des acteurs et des actrices qui font l'actualité dans notre département nivernais. Aujourd'hui, on va parler logement, précarité, dignité, reconstruction et cinéma documentaire. Tout un programme, vous en conviendrez. Une pension de famille, ce n'est pas seulement un toit, c'est un lieu où l'on peut se poser durablement, retrouver un rythme, recréer du lien et être accompagné sans être enfermé dans un dispositif d'urgence permanente. Le documentaire chronique d'une pension de famille sera présenté en avant-première le jeudi 28 mai à 18h au cinéma Mazarin à Nevers dans le cadre de la semaine des pensions de famille. La projection sera suivie d'un échange avec les participants. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Jean-Marc Tramois, chef de service éducatif à l'association Pagode. Bonjour Jean-Marc Tramois.
Bonjour.
Bonjour Koudra Béatrice.
Bonjour.
Et bonjour Agnès Ancio.
Bonjour.
Vous êtes toutes les deux résidentes, toujours pour Pagode. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être rappeler ce qu'est l'association Pagode et aussi joyeux anniversaire, puisque je crois que ça fait 20 ans.
C'est ça, l'association a 20 ans cette année. Effectivement, elle est née en 2006. D'une fusion de deux associations, la GAFIMP sur Infi et le Prado à Nevers.
Donc pour la présentation globalement, pour les gens qui connaîtraient
pas...
Alors
oui, Pagode, c'est une association de lutte contre les exclusions pour des personnes qui n'ont plus de logement, qui sont à la rue. On propose différents dispositifs. Là, plus précisément, on va parler du dispositif pension de famille et résidence accueil, qui sont... pour des personnes qui ont pu connaître des parcours de vie un peu compliqués. Certaines sont passées par soit par la rue directement pour son famille, ça arrive, ou soit par d'autres dispositifs type centre d'hébergement d'urgence, centre d'hébergement et de réinsertion sociale, auberge sociale, voilà plein de dispositifs. Et pour le coup, la pension de famille et la résidence d'accueil sont du logement pérenne, en fait. Donc les personnes restent le temps qu'elles souhaitent, elles ont leur propre logement et il y a une équipe éducative qui intervient la semaine, du lundi au vendredi, de 9h à 21h. Mais le reste du temps, les personnes sont, comme tout à chacun, dans leur propre logement.
Agnès, Béatrice, j'ai une question pour vous également. Est-ce que, sans indiscrétion, et bien sûr si vous le voulez bien, vous pouvez un peu parler de votre parcours, comment vous êtes arrivé dans l'association Je sais pas qui veut commencer.
Eh bien, moi, c'est parce que mes enfants sont partis, donc je me suis retrouvée dans un logement beaucoup trop grand et beaucoup trop cher. Et j'ai fait un coup chez un coup chez l'autre, un coup à droite, un coup à gauche. Et c'est par le biais de ma tutelle, parce que je suis sous tutelle, que j'ai rencontré l'association, le SIAO. J'ai déposé une demande. Et après, j'ai visité la pension de famille et voilà, j'ai été acceptée.
Et vous voilà.
Et me voilà là.
Agnès ?
Alors moi, j'étais à la rue et après j'ai appelé le Prado, le 115. Je suis restée un mois. Après j'étais à Infi et après je suis venue à Pagode.
À la pension de famille.
La pension de famille, voilà. Et j'étais avec Béa en colocation.
Oui.
Ah, parce qu'il y a aussi des propositions de colocation.
Oui,
voilà.
Oui.
Au départ.
Okay. Donc en fait, Jean-Marc Tramois, il y a plusieurs. En fait, il n'y a pas un parcours type pour arriver chez vous. Ça peut être très varié, la précarité.
Oui, tout à fait. Oui. Et ça peut toucher tout le monde. Donc c'est bien de le rappeler aussi.
On a le sentiment parfois que du jour au lendemain, ça peut basculer, en fait. Vous constatez
ça ? C'est ça. C'est-à-dire que c'est souvent lié à une rupture, une première rupture, qui peut être par rapport au travail,
financière,
par rapport au logement, financière, de coût.
Travail, ouais.
Voilà. Et cette rupture, souvent, il va y en avoir une deuxième qui va s'accumuler, une troisième, et à un moment donné, plusieurs ruptures font que c'est compliqué de reprendre pied seul, en fait. C'est ça.
Votre communiqué de presse parle de personnes en situation de précarité, d'isolement, parfois d'errance. Concrètement, quel parcours de vie mène aujourd'hui jusqu'à une pension de famille ? Je rappelle que selon les dernières données de l'INSEE publiées le 7 juillet 2025, la pauvreté monétaire atteint un niveau inédit depuis le début de son suivi statistique en 1996. Vous le sentez, vous, cette espèce d'évolution exponentielle ?
Ah bah oui, bien sûr. On a de plus en plus de personnes qui se retrouvent à la rue, et puis des personnes qui rencontrent des difficultés financières, en fait, qui peuvent même des fois travailler et qui se retrouvent en situation aussi. C'est compliqué des fois de trouver un équilibre financier de plus en plus aujourd'hui. Et l'actualité nous le démontre encore en ce moment, quoi.
20 ans, si je compte bien, ça fait 2006.
Oui.
Comme je le disais, on n'a jamais eu autant de pauvres depuis 1996. Près de 10 millions de Français vivent désormais sous le seuil de pauvreté. Est-ce que vous avez quelque part la capacité d'absorber cette espèce de montée de la précarité ?
Alors, on travaille avec les services de l'État, justement, pour ajuster à chaque fois, chaque année, en fonction des places disponibles, et qu'on puisse effectivement, nous, accueillir toutes les personnes au maximum, oui. Donc, c'est ce travail en étroite collaboration avec les services de l'État qui nous permet effectivement d'ajuster le nombre de places dont on a besoin. Ouais.
On parle souvent d'avoir un logement, mais est-ce que dans vos travaux, il y a aussi quelque chose de réapprendre à vivre quelque part ?
Alors, pour certaines personnes, les gestes n'ont pas été perdus, puisque c'est vrai que l'exemple de Béatrice et d'Agnès, bon, elles n'ont pas perdu ces gestes-là, mais quelqu'un qui viendrait vraiment de la rue, qui aurait vécu très très longtemps à la rue, effectivement, il y a le quotidien dans un logement demande à réapprendre des gestes basiques, hein, comment on se fait à manger, comment on entretient son logement, comment on va descendre à la boîte aux lettres prendre son courrier, comment on va vider ses poubelles régulièrement, plein de petites choses en fait qui demandent des fois juste un petit accompagnement, un petit soutien.
J'imagine que pour vous, Agnès et Béatrice, c'était une sorte de libération, si je puis dire, de retrouver un logement. Comment vous l'avez vécu, vous ?
Bien.
Oui, j'imagine.
Bien, très bien.
J'imagine.
Oui, mais bien.
Est-ce qu'il y a eu un temps d'adaptation ? C'est peut-être un grand mot, mais ouais, parce que c'est pas facile de déménager quelque part.
Non, 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 c'est vrai que c'est pas facile. Mais après, bon, voilà, c'est pour. Parce que c'est pour notre bien, déjà, d'une. Et le fait d'avoir déjà une clé. Une clé, on sait qu'on va rentrer chez nous, on va ouvrir la porte, on va fermer la porte, on va être en sécurité.
Cet objet symbolique de la clé, hein, qui nous permet effectivement d'être en sécurité, c'est important. Hein.
Ah oui, oui.
On sait qu'on a un chez nous en fait.
Ouais.
Le documentaire que vous allez diffuser, Jean-Marc Tramoy, le 28 mai, s'appelle donc Chronique d'une pension de famille. Comment est monté ce projet ?
Alors, en fait, l'idée vient d'une. Par rapport à la Semaine nationale des pensions de famille, on essaie de créer un événement chaque année, souvent des portes ouvertes. Il y a 2 ans, il y a. Une éducatrice, une hôte de la pension de famille, Vanessa, qui cherchait autre chose et qui nous a alerté, qui nous a dit « Tiens, il y a un monsieur qui a fait un film sur une pension de famille, mais bon, c'est plus au niveau données statistiques, recherche, mais ça serait peut-être intéressant quand même qu'on puisse voir ce film. » Du coup, on a réussi à joindre le metteur en scène assez facilement et on lui a fait part de notre envie de diffuser ce film-là au cinéma Zarin, c'était il y a 2 ans. Et suite à ce film-là, en fait, on s'est dit, mais il faudrait une suite à ça, en fait, plus qu'une suite, en fait, il faudrait vraiment montrer le quotidien dans une pension de famille. Parce que on ressent pas ça dans ce film où il y a beaucoup d'entretiens avec des chercheurs, tout ça. Et là, on s'est dit, en fait, ce qui nous manque, une petite frustration en sortant c'était, on sent pas assez, on voit pas assez les personnes au quotidien. Et c'est ça qu'on voudrait faire. Et là, bon, on en a parlé tout de suite au metteur en scène, qui est venu le soir même, d'ailleurs, voir la pension de famille de Nevers et la résidence d'accueil, et qui nous a dit, bah oui, c'est bien, mais par contre, produire un film, ça a un budget. Donc, si vous voulez le faire, il va falloir aller à la recherche de subventions. Ce qu'on a fait, du coup, grâce au conseil régional, grâce aux services de l'État, du conseil départemental et de l'ARS, et puis d'autres soutiens, des petits soutiens de banque, ça nous a permis effectivement de monter le projet, de le finaliser.
Si j'ai bien compris, l'idée était donc de faire un film avec ces personnes, mais pas sur ces personnes. Il y a toujours cette question un peu de « attention au misérabilisme ».
Oui, oui, c'est ça. On ne voulait pas du tout quelque chose de voyeurisme. On voulait vraiment qu'on voit au quotidien la vie de ces personnes, qu'elles disent ce qu'elles veulent d'elles-mêmes, voilà, avec cette possibilité de on garde pas. Enfin, donc François devait passer 4 semaines au départ. On avait fixé un peu le film, on l'avait structuré par rapport aux 4 saisons. C'était un peu l'idée du début. Il fallait démarrer quelque chose. François est venu 12 semaines, en fait, parce qu'il sentait ce besoin de passer d'autres moments, d'aller voir aussi ce qui se passait à l'extérieur, quand les personnes vont aussi, reprennent aussi vie au sein d'un quartier, au sein de la ville. Donc voilà, on voit d'autres moments, on voit une résidente aller à la SEM, on voit des résidents aller au Café Charbon, donc voilà, on voit des choses aussi sur l'extérieur, en fait.
Comment ça se passe? J'ai envie de vous poser la question, du coup, le quotidien, Béatrice, Agnès, comment ça se déroule?
Ça se passe très bien, on fait des activités, on fait des sorties, si on a un problème, on va voir les éducateurs, on fait pas mal de choses, c'est vrai que, voilà, on fait des sorties, ils pensent à nous, on a pas mal de choses à faire.
Ils nous aident dans nos parcours et surtout, ils nous poussent aussi à retrouver l'autonomie. Voilà, s'ils nous sentent capables d'aller faire un papier, d'aller chez un médecin, d'aller même faire un tour, même, voilà, ils vont nous encourager justement à le faire. Ils ne vont pas le faire à notre place. Ils vont nous aider et après, ils nous laissent retrouver notre autonomie.
Comme ça, vous pouvez le faire toute seule après.
Et voilà, exactement.
L'idéal, c'est ce que je dis, c'est que le jour où un résident veut partir sur l'extérieur, il n'est pas dépendant de l'éducateur, en fait. L'éducateur a juste été le petit soutien, le petit accompagnement, mais après, voilà, le film révèle ça, révèle en fait les capacités que les personnes ont ou peuvent retrouver, en fait, avec un accompagnement... qui n'est pas un accompagnement de proximité. Nous, c'est pas un accompagnement global. C'est vraiment on impulse, voilà. On impulse et après la personne.
C'est bien aussi saisie. Parce que voilà, on fête Noël, on fête Halloween. C'est bien pour nous parce que avant, quand on était dans la rue, on pouvait pas. On fait de la cuisine. Moi, j'adore. Moi, je suis pâtissière.
C'est vrai.
Ouais. Je fais la pâtisserie là-bas.
Ah, j'adore. Voilà. C'est quoi votre spécialité?
La spécialité, moi, c'est gâteau au chocolat.
Oh, c'est les meilleurs. Voilà. C'est les meilleurs.
Demain, c'est les crêpes.
Demain, c'est les crêpes.
En tant qu'un grand fan de Bretagne, je peux confirmer que c'est excellent, les crêpes. Le film dont on parlait tout à l'heure sera donc projeté au Mazarin devant du grand public, le grand public, devrais-je dire. Qu'est-ce que vous aimeriez, dans l'idéal, que les spectateurs retiennent en sortant de la salle?
Alors le but de ce film était de sensibiliser effectivement le grand public un peu, de se rendre compte que les personnes qu'on accompagne, c'est pas que des personnes qui ont des difficultés, mais c'est des personnes justement qui savent faire plein de choses, qui ont une vie normale, qui reprennent pied et qui redémarrent en fait. C'est déjà ça, que les personnes comprennent qu'à un moment donné ça peut arriver à tout à chacun, à n'importe quel moment. Et qu'il faut un peu regarder les personnes qu'on accompagne d'un autre regard, en fait. C'est pour sensibiliser, du coup, nos élus aussi, parce qu'on a besoin aussi de structures type pension de famille, résidence accueil. On a besoin d'en développer. C'est quand même un dispositif qui a fait ses preuves. C'est aussi un moyen de sensibiliser aussi les jeunes au métier du travail social, qui est aussi un peu en déclin ces dernières années.
Il est un peu boudé par...
C'est ça, les instituts du travail social aujourd'hui ont moins d'éducateurs, de moniteurs éducateurs ou d'animateurs. Donc c'est aussi pour montrer que ce travail-là est un travail aussi riche et qu'on apprend aussi beaucoup des personnes qu'on accompagne en plus. Donc voilà, c'est pour ce film, il a plusieurs vocations aujourd'hui.
Vous évoquiez à l'instant le regard des autres. Est-ce que vous jugez, vous qui êtes au contact tous les jours, des regards trop durs ou trop simplistes sur ces personnes qui ont besoin d'aide, peut-être la faute à un système qui est dysfonctionnel?
C'est pas moi qui serais le mieux placé pour en parler, du coup. Hein. C'est vrai que, mais je pense qu'il peut y avoir une stigmatisation.
Vous avez senti le regard des autres?
Oui.
Dans la rue, dans le...
Même dans le milieu, pas que médical, mais enfin, voilà, oui.
Ouais, c'est pas facile, on se sent jugé.
Exact, ouais, c'est ça. Voilà, vous êtes ça, enfin, vous avez ou le RSA, ou vous avez l'AH, ou des trucs comme ça, vous êtes... presque un cassos ou un truc comme... Voilà, voilà.
C'est des mots encore très durs.
Oui, c'est ça.
Aujourd'hui, dans les médias, il y a le mot assistanat qui est, à mon sens, très, très dur. Et ça a un impact concret sur vous, sur la façon dont...
Okay.
Donc, je le disais tout à l'heure, le documentaire s'inscrit dans la semaine des pensions de famille. Pourquoi c'est important de défendre ce modèle aujourd'hui ?
Alors, c'est important parce que toutes les personnes, effectivement, qui vivent en pension de famille ont une vie comme tout à chacun et vont dans le quartier faire les magasins, elles vont en ville, elles vont voir les spectacles, donc elles consomment, elles rapportent aussi quelque chose du coup à la ville. Et puis la pension de famille aussi, puisqu'il y a des travailleurs sociaux qui viennent, des infirmiers qui viennent, on a des entreprises qui entretiennent, voilà, et tout ça participe à la vie économique de la ville aussi. Donc c'est important de sensibiliser les élus là-dessus, c'est que l'investissement qui peut être mis dans la construction de pension de famille, eh bien il y a quand même derrière un développement économique quand même qui existe en fait au quotidien.
Quand vous dites les élus, je ne sais pas si vous travaillez avec les députés ou avec les départements, la région, je ne sais pas comment ça se passe.
Les demandes de financement peuvent toucher effectivement, ça peut toucher le département, les villes, l'État, même la réserve parlementaire, enfin, je ne suis même pas sûr qu'elle existe encore, mais voilà, on peut... L'idée, c'est de sensibiliser le plus de monde possible. Aujourd'hui, d'ailleurs, le film sera déjà présenté au Sénat au mois d'octobre. Voilà, c'était une autre volonté, c'est de pouvoir le présenter au Sénat et à l'Assemblée Générale. L'Assemblée Nationale, voilà.
Ça peut être aussi à l'Assemblée Générale, mais...
Ça peut aussi, oui, ça sera sans doute d'ailleurs à l'Assemblée Générale à un moment donné. Ouais.
À l'occasion des 20 ans des ateliers d'écriture avec Arthur Ribot et une fresque avec Sam sont aussi prévues. Est-ce que passer par l'art, c'est aussi important pour parler des vécus, du parcours ?
Oui, je pense que la culture est importante... C'est un vecteur d'insertion aussi des fois quand le travail devient difficile dans les sociétés dans lesquelles on vit, de se réinsérer professionnellement, c'est pas facile. Et pour le coup, des fois, la culture permet de reprendre pied. Hein. Là, je pense, je vois Béatrice, par exemple, qui aime faire du diamond painting.
Alors, je veux bien savoir ce que c'est du diamond painting, ça m'intéresse beaucoup.
Alors, c'est une toile en collé, il y a des numéros et on place des perles dessus. Voilà.
Vous êtes manuel, plutôt ?
Oui.
En tout cas, sur ce sujet-là.
Voilà, sur ça, ça va.
Ok. Voilà, et puis c'est d'aller des fois à la maison, d'aller au café charbon, voilà, de pouvoir retisser aussi du lien sur l'extérieur. Et d'ailleurs, dans le film, on avait cette volonté qu'il y ait quelque chose de... Le film, pour un documentaire, est musical quand même, très musical. On a eu les Vents Passent qui ont donné leur autorisation qu'on utilise un morceau. On a Vianney... Gaëtan Roussel et Jean-Patrick Capdevielle aussi, qui est acteur dans le film, du coup, voilà, pour ceux qui se souviennent de Jean-Patrick Capdevielle, ils le reverront.
Ça fera une sorte de teaser hein, pour donner envie aux gens de voir le film. J'ai une dernière question, comment les auditeurs et auditrices, peuvent-ils assister à l'avant-première du film le 28 mai au Mazarin?
Alors l'idéal pour qu'on puisse nous quantifier, c'est d'aller sur le site d'Elo Asso.
Directement sur votre page Pagode Elo Asso.
Ouais, voilà. Ça permet de prendre ses places, la place est à 5€. Nous, ça nous permet effectivement de jauger la salle, la taille de la salle. Après, sur place, sinon.
Sur place, on peut directement prendre son billet.
Oui, on peut aussi prendre, voilà, si besoin, on peut aller sur place, on peut comprendre que des fois, tout le monde n'a pas forcément la facilité d'aller sur Internet. Donc voilà. Si vous pouvez, Elo Asso. Si vous ne pouvez pas, bah vous venez sur place directement. Voilà.
Merci beaucoup, Jean-Marc. Dites-moi.
Juste rajouter, j'ai peut-être oublié un truc qui est très important. Le premier rôle d'une pension de famille, c'est de rompre l'isolement, quand même. Ça, il faut que je le rappelle. C'est vraiment la première mission des pensions de famille.
Alors, on parle de beaucoup de santé mentale, sans doute plus qu'avant. Est-ce que ça agit aussi sur ce niveau-là ?
Alors oui, puisque nous avons une pension de famille et l'autre pension de famille, elle a la spécificité d'accueillir des personnes qui ont des troubles psy. Elle s'appelle la résidence accueil, elle est sur le même site. Mais effectivement, pourquoi une résidence accueil ? C'est aussi pour proposer des temps collectifs, des animations pour des personnes qui peuvent aussi souffrir de troubles psychiques aussi.
Vous me donnez l'idée d'une question. Alors, je ne sais plus exactement le chiffre de mémoire. C'est un jeune sur trois qui saute un repas, un étudiant sur trois, pardon, qui saute un repas pour cause de précarité. Vous avez des jeunes aussi ?
Eh bien, écoutez, on vient d'avoir tout juste. On a un jeune qui vient d'arriver qui a à peine 19 ans, je crois. Pour le coup, vous voyez, c'est assez récent.
Ça, c'est une nouveauté ou c'est quelque chose que vous avez observé quand même ?
Alors, on n'a pas de limite d'âge à partir du moment où la personne est majeure. On a une résidente qui est arrivée pareil, elle avait 19 ans, maintenant elle a 30 ans. Ouais, c'était il y a 10 ans et demi, 11 ans, ouais. Mais on a rarement des personnes jeunes, quand même. C'est très rare. Et là, c'est vrai qu'on a cette personne qui vient d'arriver aussi. Tout l'intérêt aussi, on ne l'a pas mentionné, mais c'est le fait qu'il n'y ait pas de limite d'âge et qu'en fait, on a un panel d'âge très différent, en fait, entre les personnes. Et ça, c'est très, très intéressant. Vous verrez dans ce film, d'ailleurs, Janine, qui est une résidente qui a passé une quinzaine d'années en pension de famille. Et voilà, je ne vais pas donner la fin du film, pour venir la voir.
Pas divulgation.
Non, mais on la voit beaucoup dans le film. Janine, 87 ans.
C'est intéressant, comment on fait pour vous contacter si d'aventure un auditeur ou une auditrice se sent en difficulté, a besoin d'aide ?
Alors, toutes les orientations passent par le SIAO, forcément. Après, pour une visite de contact, on peut nous contacter en direct. Hein. On peut contacter la pension de famille, à l'association Pagode, et on peut faire des visites de contact.
Le coup de téléphone est gratuit ?
Le coup de téléphone est gratuit, la visite est gratuite aussi. Voilà, ça permet des fois juste de se projeter, de se dire, bon, ben oui, ça me convient ou ça ne me convient pas. Mais oui, ça c'est gratuit, il n'y a pas de problème.
Merci Jean-Marc Tramois, merci Béatrice Coudra, merci Agnès Ancieux d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que le documentaire Chronique d'une pension de famille, réalisé par François Avez, sera présenté en avant-première le jeudi 28 mai à 18h au cinéma Mazarin à Nevers, dans le cadre de la semaine des pensions de famille. Merci encore à l'association Pagode pour cet échange, et encore bon anniversaire pour ses 20 ans d'engagement dans le territoire. C'était CDLPC dans les parages, votre émission 100% locale sur BAC FM. Restez avec nous sur la radio pop, rock et metal.